VOA Afrique, les infos. À Washington.
Avec vous, Henri Francisque, midi à Conakry, 13h à Kinshasa. Bienvenue à notre journal. On commence par l'Afrique centrale, en République démocratique du Congo. Un meeting des principaux partis d'opposition prévu demain samedi près du siège du Parlement national à Kinshasa a été autorisé. Une décision qui intervient à moins de 3 mois des élections du 23 décembre. Abdourahmane Dia.
L'opposition, qui est engagée dans un processus de désignation d'un candidat unique à la présidentielle du 23 décembre, avait informé le gouverneur de Kinshasa de la tenue le 29 septembre d'une réunion publique. André Kimbuta a donc répondu favorablement, demandant toutefois à l'opposition de veiller au strict respect des dispositions de la loi régissant les manifestations et réunions publiques. La campagne électorale doit s'ouvrir le 22 novembre, même si des contestations persistent autour de la procédure de vote, notamment sur l'utilisation d'une machine à voter et le fichier électoral. D'ailleurs, dans la journée d'hier, une vingtaine de jeunes du mouvement Lutte pour le changement, Lucha, ont été interpellés alors qu'ils manifestaient devant le siège du gouvernement contre la machine à voter que la commission électorale compte utiliser lors des élections de décembre. Lors de son discours à la 73e Assemblée générale de l'ONU à New York, le président Joseph Kabila, qui ne va pas se représenter, a réitéré l'organisation d'élections sans l'appui financier de la communauté internationale ainsi que le respect de la loi électorale.
Afrique de l'Ouest maintenant, au Nigeria, l'APC, le Congrès des progressistes au pouvoir, à Abuja, a remporté les élections locales dans l'état d'Osun, dans le sud-ouest du pays. Un scrutin considéré comme une répétition générale de la présidentielle de 2019, une victoire aussitôt décriée par l'opposition. Gbo Yega Oyetola, le candidat de l'APC pour le poste de gouverneur, a été déclaré vainqueur dans la nuit de jeudi à vendredi. Il a obtenu 255 505 voix, battant de quelques centaines de suffrages seulement son rival Ademola Adeleke du Parti populaire démocratique d'opposition PDP, qui en a recueilli 250 023, selon les résultats officiels, d'où les protestations aujourd'hui de l'opposition qui dénonce des fraudes. Ce qui est en train de se passer à Osun n'est pas une élection, a déclaré le sénateur Adeleke en promettant de continuer l'affaire en justice. Élections en Afrique, toujours en Côte d'Ivoire, quelques 22 000 candidats seront en lice lors des élections municipales et régionales du 13 octobre, dont la campagne commence ce vendredi. Le scrutin du 13 octobre doit aboutir à l'élection de 197 maires et 31 présidents de conseils régionaux. Derrière ce scrutin local, c'est la présidentielle de 2020, déjà dans toutes les têtes, qui se dessine. Le paysage politique ivoirien s'est transformé ces derniers mois. La coalition au pouvoir derrière le président Alassane Ouattara, le Rassemblement des Oufouettis pour la démocratie et la paix, RHDP, a explosé en raison des multiples ambitions présidentielles. Le PDCI a refusé de se maintenir dans le RHDP, estimant que le Rassemblement des Républicains, le RDR, parti du président Ouattara, tentait en fait de l'assimiler pour pouvoir présenter un candidat à lui à la présidentielle. Le PDCI qui a soutenu Alassane Ouattara en 2010 et 2015 entendait que le parti de Ouattara lui rende là pareil en 2020 en soutenant un candidat PDCI à la présidentielle. En Guinée, 5 ONG guinéennes internationales ont réclamé jeudi la tenue l'an prochain du procès emblématique du massacre de septembre 2009 dans un stade de Conakry où plus de 150 opposants avaient été tués et une centaine de femmes violées. Plus de détails avec Morgane Guiriek.
L'instruction sur le massacre du stade du 28 septembre 2009 est clôturée depuis fin 2017. Personne n'a encore été jugé en Guinée, selon 5 ONG, dont Amnesty International et Human Rights Watch. Pour ces organisations, il est impératif que les juges soient nommés et qu'un calendrier soit établi pour que le procès puisse s'ouvrir en 2019 et que les 13 inculpés soient enfin jugés. Le ministère de la Justice a mis en place un comité de pilotage chargé de préparer le procès. Ce comité devait se réunir toutes les semaines, mais ne l'a fait que 2 fois en 6 mois. Le 28 septembre 2009, des militaires avaient tué au moins 157 personnes et violé 109 femmes dans un stade de Conakry. Ces personnes manifestaient contre la candidature à la présidentielle du chef de la junte de l'époque, Moussa Dadis Camara. Moussa Dadis Camara vit en exil au Burkina Faso. Son ancien aide de camp, Aboubacar Sidiki Diakité, dit Toumba Diakité, extradé du Sénégal vers la Guinée en mars 2017, fait également partie des prévenus.
Vous êtes à l'écoute de VOA Afrique.
Afrique de l'Ouest toujours, le département d'État américain et le gouvernement sénégalais ont inauguré à Thiès au Sénégal un nouveau centre de formation régionale consacré à la lutte contre le terrorisme. Cet établissement a été financé, construit et équipé à travers le programme d'assistance antiterroriste du département d'État américain. Idriss Fall a fait le point avec Tulinabo Mushingi, l'ambassadeur américain à Dakar, de passage à Washington.
La sécurité, c'est une des priorités, une de nos priorités de la politique américaine envers l'Afrique. Et bien sûr, nous cherchons des partenaires avec qui travailler pour lutter contre le terrorisme. Le terrorisme qui est un fléau international. Tout le monde est d'accord que pour lutter contre le terrorisme, nous avons besoin l'un de l'autre. Les pays riches, les pays pauvres, les grands pays, les petits pays, les pays du nord, de l'est, du sud, du centre, nous tous, nous devons travailler ensemble. Donc, pour ce qui est de l'Afrique, pour former nos partenaires, pour essayer de travailler avec nos partenaires, il y a trois niveaux. Il y a la formation, il y a l'équipement et il y a le partage de renseignements. Mais pour faire ça, on ne peut pas tout faire à l'étranger. Il faut essayer de voir comment nous pouvons travailler ensemble sur place.
Et ce donc, centre au Sénégal,
le centre, c'est un centre, ça va être un centre de formation régionale pour la région. Donc, au lieu que les gens soient, bon, ils vont continuer à être envoyés à l'étranger, bien sûr, mais au lieu que les gens partent chaque fois pour des formations à l'étranger, on peut les former localement pour toute la région au niveau du Sénégal. Donc c'est un centre qui vient d'être inauguré pendant mon absence en fait ce mois, au début de ce mois. C'est un centre qui vient d'être inauguré à Thiès et qui va commencer à fonctionner bientôt.
Qui va recevoir quel type d'étudiants? C'est des étudiants spéciaux quand même?
Non, les étudiants spéciaux, quand nous travaillons avec des partenaires, ces questions, comme je dis, c'est un partenariat. Donc si vous, le Sénégal, vous nous envoyez deux ou trois étudiants, si le Mali envoie deux ou trois étudiants, c'est un centre régional, ce n'est pas un centre américain.
Et on les forme à quoi?
C'est un centre régional de formation, dans tous les éléments qu'on a pour lutter contre le terrorisme. Comme je disais, on vient seulement d'une donc on n'a pas encore commencé.
Mais le Sénégal, en fait, pour le moment, est à l'abri. Il n'y a pas encore d'attaque terroriste. Pourquoi pas au Mali, ni au Burkina Faso, ni au Niger?
Quand nous cherchons à travailler avec des partenaires, on travaille avec tous les partenaires. Le centre pouvait être n'importe où, comme vous l'avez dit. Pour le moment, nous avons décidé avec le Sénégal que le centre, le Sénégal allait abriter ce centre. Et puis, entre les deux pays, nous nous sommes mis d'accord. Nous avons trouvé un site. Et on a commencé la construction et on vient tout de suite ce mois, au début de ce mois, d'inaugurer le centre. Tous les détails vont venir après, j'espère.
Tulinabo Mushingi, ambassadeur des États-Unis à Dakar, au Sénégal. États-Unis toujours, la bataille pour la confirmation du juge Brett Kavanaugh, le candidat du président Donald Trump à la Cour suprême américaine, s'est poursuivi jeudi devant la commission judiciaire du Sénat. Une ancienne connaissance du juge, Madame Christine Blasey Ford, s'est déclarée sûre à 100% d'avoir été agressée dans sa jeunesse par Brett Kavanaugh, lequel proteste avec véhémence de son innocence. Leurs vérités irréconciliables se sont heurtées hier devant la nation américaine. Le point avec Jean-Roger Bion.
Elle en toute retenue, lui en toute indignation, le juge Kavanaugh et son accusatrice Ford ont été auditionnés pendant de longues heures par la commission judiciaire du Sénat. Cette dernière a prévu de voter dès ce vendredi sur la candidature du juge Kavanaugh avant un vote en séance plénière dans les jours suivants. Questionnée sur la possibilité qu'elle puisse se tromper d'agresseur, Christine Blasey Ford s'est dite absolument sûre qu'il s'agissait bien de Brett Kavanaugh, et cela à 100%. Son image de conservateur catholique, bon père de famille, a été sérieusement écornée par le témoignage de Madame Blasey Ford et de deux autres femmes sorties de l'ombre dans la foulée pour l'accuser de comportement sexuel inapproprié. « Je n'ai jamais agressé sexuellement qui que ce soit, ni au lycée, ni à l'université », a rétorqué Brett Kavanaugh, réfutant point par point les accusations de Madame Blasey Ford et soulignant les imprécisions de son témoignage. Dénonçant un coup monté des anti-Trump et pro-Clinton, il a assuré qu'il ne céderait pas aux appels pour son retrait. Plusieurs républicains ont apporté leur soutien au juge Kavanaugh. Les sénateurs démocrates qui ont tous loué le courage de Mme Blasey Ford ont eux passé le juge au grill de leurs questions et ont notamment regretté à plusieurs reprises que le FBI n'ait pas pu mener d'enquête sur les accusations de Mme Blasey Ford.
Merci de votre attention.